PCF présente La Petite Édition.
Bonjour à tous, bienvenue sur PCF Manga, la petite émission. Alors, petite émission spéciale, je vais présenter d'abord nos intervenants et ensuite je vais présenter notre grand invité du jour. Alors, pour les intervenants, le premier, c'est un peu le Zangief du podcast. Il aime se battre en slip sous des drapeaux communistes. Représentant le Nord, j'ai nommé Max, sous vos applaudissements.
Yeah. Bonsoir à tous. Salut Jo, salut Do, salut à notre invité mystère. Je ne vais pas spoiler tout de suite.
No spoil.
Je suis très content d'être là ce soir pour discuter du sujet du jour. Ça va être passionnant.
On passe tout de suite au deuxième intervenant. C'est un peu le Aomaru du podcast. Il ne part jamais à la bataille sans sa cruche de saké. Représentant le Sud, j'ai nommé Doz, sous vos applaudissements.
Salut à tous, salut à tout le monde, auditrices, auditeurs. Bah écoutez, je suis très content là. Je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré des émissions directes comme ça en enchaînant en moins de 3 mois. C'est magnifique.
C'est un peu trop même.
Ouais, on n'a pas eu le temps de récupérer là. On n'est pas bien.
Bon, donc le dernier intervenant, il aurait rêvé être Andy Bogard, non pas pour sa classe ou sa technique, mais pour pouvoir serrer Mei Shiranui. Représentant l'Ouest, j'ai nommé Joe, sous vos applaudissements.
Ouh, il est bien. Yeah.
Et bien sûr, alors, petite émission spéciale, je vais présenter notre invité, c'est un peu le boss final. Il maîtrise toutes les techniques et détient tous les arcanes de la borne d'arcade. Nous sommes très 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 heureux d'accueillir le grand TMDJC. Salut mec.
Bonjour tout le monde. Comment allez-vous?
Bah écoute, ça va super et toi?
Bah ça va très très bien, je suis en bonne compagnie, en plus il fait bon. Vous m'avez mélangé 3 univers différents, c'est génial.
Il y a de la veste, il y a du t-shirt, il y a du Marcel, t'as tout ce qu'il faut là.
Il y a tout ce qu'il faut.
Entre 5 degrés dans le Nord et 35 en Martinique.
Ça va, ouais, moi je crève un peu mais bon.
Le pauvre il est en train de cuire sur place.
C'est clair, j'en peux plus là. Bien, en fait tu sais que sous mon Marcel là en dessous il n'y a rien, c'est pour ça que je baisse pas la caméra, c'est que je suis en maillot de bain en dessous.
Voilà. Oui, en maillot de bain, oui.
Oui, ou pas. En maillot de bain brésilien. Voilà, bon, TMDJC, si vous ne le connaissez pas, de toute façon, il va se présenter. Et évidemment, le thème de l'émission va être tout à fait particulier, parce qu'on va parler manga et jeux vidéo, forcément. TMDJC, est-ce que tu pourras te présenter, s'il te plaît?
Je vais essayer de faire court. C'est toujours très, très compliqué de répondre à cette question. Comme j'ai cette fâcheuse habitude de me balader dans plein de podcasts différents, je dois souvent me plier à cet exercice. Moi, je suis dans le podcast depuis plus de 20 ans, donc forcément, j'ai croisé plein de mondes différents, donc plein d'univers différents. Mais grosso modo, là où on va m'entendre le plus souvent, c'est surtout tout ce qui est pop culture, que ce soit culture japonaise ou américaine, ou de temps en temps coréenne, parce que j'ai eu l'occasion de faire des trucs là-dessus. On m'entend aussi dans le domaine de la musique. J'ai un petit podcast musical qui s'appelle Périphérique 2, qui est un podcast familial, donc que j'anime avec mon frère et mon père. Donc on a vraiment fait un truc vraiment familial, où on a un dé magique qu'on lance, qui nous dit tiens, ce sera tel thème à traiter, et on arrive chacun avec 3 morceaux et on parle du morceau, on parle des morceaux en question. Et voilà. Et puis sinon on m'entend chez Level Max, chez Bagro Point, où je parle jeux vidéo, particulièrement chez Bagro Point, de jeux de combat, qui est un petit peu un domaine que j'affectionne beaucoup. Je pense que Street Fighter a pris beaucoup trop de place dans ma vie.
Mais on va dire tes émissions principales, c'est quoi les émissions où on peut te suivre le plus?
Ce qui tourne le plus en ce moment, au-delà de mes activités avec les copains, ça reste donc Périphérique 2 dont je parlais, c'est Timeline qui est une espèce de petite capsule. En fait, l'idée, c'est que régulièrement, moi qui suis un petit peu les affres du MCU, on me disait mais attends, tel film, ça se passe à tel moment, j'ai pas compris tel personnage, il était pas mort ou le... Et donc en fait, j'ai fait tout simplement un podcast qui dure quelques secondes, les plus longs font 2 minutes et des brouettes, qui est que tel événement s'est passé à telle date, et c'est matinée de musique de Marvel avec des extraits des films pour que ce soit agréable. Donc c'est très court et la capsule marche pas trop mal. En fait, si ça vous intéresse de découvrir mon univers, parce que je pense que ce sera beaucoup plus simple, vous vous rendez sur tmdjc.com. Là, il y a à boire et à manger, vous allez trouver plein de trucs et vous allez retrouver les copains de Level Max et de Bagro Point dont je parlais, les gens de 10 Podcast, les gens d'Allo Central avec qui je bosse également. Enfin voilà, il y a plein de gens très très bien. Ce qui est très très bien sur le site tmdjc.com, c'est que vous n'allez pas découvrir que du TMDJC. Il y a plein de gens très bien. Je dis pas ça pour leur rendre hommage, mais j'aime vraiment bosser avec les gens avec qui je bosse. J'ai la chance de connaître plein de gens fantastiques. Découvrez-les.
Ce qui est important à dire, c'est vraiment qu'il a un univers très très large.
Trop.
T'es professionnalisé dans le podcast.
Oui.
Du coup, tu fais énormément de thèmes et de sujets, de formats différents. Et c'est vrai que c'est quelqu'un de super intéressant.
Ah, c'est gentil.
Oh, bah, c'est clair.
Et on est vraiment très, très fiers de t'avoir avec nous aujourd'hui.
Non, je t'ai plus.
Bah, attends.
Mais je rougis facilement en plus.
Faut rendre à César.
Alors, je vais pas te vieillir, mais t'es un peu le tonton du podcast français, tu vois.
T'es gentil, parce que très souvent, on me dit, ah, mais c'est le grand-père. Mais, vraie anecdote, à l'époque, je participais à la World Game Cup, qui était un énorme tournoi qui se passait à Cannes, donc à pas très loin du moment du festival de Cannes, donc vraiment une ambiance très particulière. Il y a un copain qui vient nous voir qui fait, hey, vous savez que j'ai entendu parler de vous dans le bus, c'est trop marrant. Et ils étaient en train de dire, ouais, bah, gros point, c'est vachement sympa, tout ça. Et j'ai croisé TMDJC, il est super cool. Et il y a un des mecs qui fait, mais TMDJC, c'est quel? Et le gars répond, TMDJC, bah, c'est le vieux.
Super.
Donc voilà.
Fait toujours plaisir.
J'ai l'habitude maintenant. Et en plus, cette anecdote a presque 15 ans. Donc...
Oui.
Ça aide pas, quoi.
Mais vous savez que il va peut-être avoir un pot de reine un jour pendant la période de Noël et il fera le Père Noël pour tous les podcasteurs. Il leur apportera des petits micros.
On pourra s'asseoir sur son genou et faire des photos.
Dis, je viendrai avec des cadeaux. C'est une très bonne idée. Je la note.
Non mais toi, à ton époque, c'était des oranges qu'on donnait à Noël.
Non mais on fait genre les jeunes alors qu'on a le même âge, hein, c'est pas loin.
Hein. Je pense qu'on doit pas être très
non.
éloigné.
Non, 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 effectivement. Mais en tout cas, en termes d'expérience, c'est vrai que même on peut le dire à nos auditeurs, on a eu l'occasion de se rejoindre une fois où tu nous avais donné pas mal de petits conseils qui nous ont vachement aidé aussi. On te remercie d'ailleurs. C'était vraiment très cool de ta part.
Avec grand plaisir.
C'était vraiment très cool de ta part. Pour nous, c'est quand même super sympa de t'avoir aujourd'hui, que tu nous accordes un peu de ton expérience.
Je me fais plaisir.
Le sujet en plus, voilà, c'est pur plaisir. Je suis un peu le plus gros, on va dire, joueur par rapport à Max et à Doz, mais évidemment qu'on pouvait faire cette émission qu'avec toi. Donc franchement, c'est très très cool. Merci d'être venu et puis on se revoit une prochaine fois.
Allez, au revoir.
Allez, salut, à bientôt, hein, bonne soirée.
C'est super cool. Écoute, c'est la meilleure pub qu'on m'ait jamais fait. Tout un podcast pour parler que de moi.
T'as vu ça? Non, comme tu es l'invité, on va te laisser proposer ton analyse en premier. De quoi tu vas nous parler, mon cher TMDJC?
Bah, la question qu'on s'est posée tous ensemble, parce que bah, là, on est quand même dans une émission qui est quand même très centrée sur le manga. Il y a manga dans le titre. Hein, donc,
il me semble. Bon,
il y a des indices. Il me semble bien aussi. Et la question qu'on se disait, tiens, mais c'est quoi le lien entre le jeu vidéo et le manga? Et il vient très très vite parce que je pense que manga et jeu vidéo, c'est né quasiment en même temps, à peu de choses près que les deux. Alors j'exagère à peine parce que ils ont tous eu un petit peu leur vie à gauche à droite. Et puis le jeu vidéo a été un petit peu américain avant d'être vraiment japonais dans le sens où il y a vraiment eu une période où les Japonais ont vraiment régné en maître sur le jeu vidéo. Et comme toute activité commerciale, il était un petit peu logique que des licences qui fonctionnent finissent par être adaptées en jeu vidéo, mais à l'extrême inverse, des jeux vidéo qui ont vraiment fonctionné se retrouvent adaptés en manga, voire en comics, parce que là on parle de manga, mais pas que, et après en cinéma. Alors le cinéma, t'as des cinémas, du cinéma live, mais je pense également à des films d'animation. Il y en a certains, je trouve d'ailleurs, qui sont souvent des meilleures adaptations que les films live. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi absolument il y en a qui veulent absolument tout adapter en live, ouais, alors qu'il y a des univers qui ne s'y prêtent pas.
Pas du tout.
Senseiya.
Voilà, tout à fait, par exemple.
Mais ça se trouve, au Japon, ça marche. Nous, ça marche pas chez nous. Parce que
il faudrait clair. Regarder les chiffres. Je suis pas certain que Dragon Ball Evolution ait eu des chiffres de malade au Japon.
Je sens devenir le Senseiya Evolution. La suite de Dragon Ball Evolution, oui. Je sens que ça va pas non plus fonctionner.
La suite, ouais. Ça se passe dans le même univers.
Plus, c'est Yann qui fait des caméras.
C'est canonique.
Et donc, comme tu disais, TMDJC, justement, on avait discuté un peu en off, parce qu'on prépare les émissions, tout ça n'est pas improvisé, ça fait des semaines de préparation,
des mois
de préparation, et donc on s'est dit qu'il y a des univers qu'on appelle maintenant le cross-média, qu'il y a de plus en plus de jeux vidéo qui sont conçus dès le départ pour après être adaptés en film, en animation, en manga,
en jeu de cartes.
Et donc on a fait le choix de faire cette émission-là en deux parties, donc la première partie où on va plutôt parler des jeux vidéo en tant que tels et les jeux vidéo adaptés des mangas, et on fera une deuxième partie où ce sera l'inverse, les mangas adaptés des jeux vidéo.
Alors sachant qu'il y a des œuvres qui ont vraiment le cul entre deux chaises parce que ils pillent un peu dans le manga et ils vont donner des mangas derrière. Et effectivement, pour enchaîner sur ta première partie, si on parle de jeux vidéo qui ont été adaptés depuis des mangas, alors chez nous il y en a pas eu tant que ça parce que des jeux vidéo qui sont arrivés jusque chez nous, vendu sur le sol français, voire dans certains cas de figure traduit, surtout au début des années 90, c'était pas forcément légion, mais t'as des mangas comme ça qui ont malgré tout complètement traversé l'Atlantique pour arriver jusque chez nous. Je pense évidemment à des mangas comme Dragon Ball ou comme Ranma qui fonctionnaient très très bien. D'avoir la magie quand t'es gamin ou adolescent de voir débarquer ta licence non seulement sur ta console préférée, mais en plus qui est traduit dans ta langue. C'est génial. Bon, après, des fois, les traductions, elles sont un peu faites au pied de biche parce que, bah, ils ont un nombre de caractères et que la langue française, c'est pas le japonais. Ça s'écrit pas pareil. Tiens, bah, là, il me faut une dizaine de caractères pour ce mot-là. Bah oui, mais nous, on en a qu'un. Ah, c'est ballot. Ça nous donne à la fin des Dragon Ball où il y a marqué prends technique. Ok, bah, je prends technique alors à ce moment-là.
Je vais rebondir sur ce que tu dis. TMDJC, ça commence vraiment avec la 8 bits sur la NES. On avait quand même quelques jeux, mais bon, de qualité vraiment discutable. Le premier Dragon Ball sur la NES que j'avais eu, j'en ai déjà parlé, j'en rêvais, et en fait, c'était vraiment pas ouf. En plus, ils ont mis une sprite de Sangoku sur un autre jeu qui existait déjà. Évidemment, le jeu Saint Seiya aussi, qui est bizarre, on va dire, qui est discutable. Alors, moi, je me souviens y avoir joué avec mon cousin, j'ai eu une heure, puis on a arrêté parce qu'on comprenait pas ce qu'il fallait faire.
T'es pas le seul.
Comme tu disais, c'est vraiment à partir de la 16 bits, hein, la génération, on va dire, Super NES, où là, on va commencer à avoir des bons jeux, notamment, bah, ceux qui faisaient rêver, c'était les jeux Dragon Ball, les Butoden qui faisaient rêver, hein. On voyait ça dans le magazine Player One, on avait qu'une seule envie, c'était d'y jouer, de dire que tu peux jouer à ta licence préférée, ça donnait vraiment, ça faisait rêver, quoi.
Là où ils sont très, très forts, si on prend les Dragon Ball ou même les Ranma, les jeux techniques, ils sont pas très bons, pour pas dire qu'ils sont même pas bons du tout. Mais en fait, la licence, elle est tellement géniale que tu passes à côté de plein de défauts et que tu te fais vraiment plaisir. C'est-à-dire que c'est même pas tu te forces à y jouer, c'est que t'es content de pouvoir faire un Kamehameha qui va faire tout l'écran et d'entendre les seiyuu de l'époque, parce que nous on les connaissait pas bien, on les entendait rarement les seiyuu parce qu'on avait les versions françaises. Et là, tu te retrouves avec le Kamehameha qui est ultra aigu, tu comprends pas pourquoi, mais c'est juste ultra charismatique.
Alors moi, j'ai commencé aussi à jouer sur la NES à certaines licences, comme tu parlais de Dragon Ball ou de Saint Seiya, et c'était des déceptions immenses parce qu'on avait tellement envie d'avoir un jeu avec le dessin animé qu'on adorait à la télé et que ça nous faisait rêver. On s'était dit qu'on allait refaire toute l'histoire et tout. Et en fait, on se retrouvait soit avec un petit bonhomme qui ressemblait pas à Sangoku dans un jeu tout pourrave, soit avec des cartes. Alors, je savais que c'était pas possible peut-être techniquement à l'époque, mais moi, je voulais monter les marches, faire les différentes maisons du Zodiac, et je voulais pas avoir des cartes à la con, je voulais monter les marches. Et j'ai l'impression qu'on a commencé en tout cas à rêver à partir des 16 bits parce que le graphisme commençait à ressembler au dessin animé. Par exemple, Ranma, le jeu de baston Ranma est pas forcément un très bon jeu, mais rien que le plaisir de jouer avec les personnages qu'on aime, bien sûr que par rapport à Street Fighter, c'était nul à chier, mais on était content quand même de jouer avec ces personnages.
La problématique en fait qui se pose, elle est double. On parle de la licence. Bon, déjà, la licence, il faut la louer, il faut, donc ça, tout ça coûte des sous. C'est des sous qui sont pas forcément du coup alloués au développement derrière. Et c'est vrai que là, on avait le problème avec les mangas, mais toutes les adaptations qu'on a pu voir de films ou etc., en général, c'était pas dinguissime. Donc la problématique en fait, quand on veut absolument faire un jeu vidéo à partir d'une œuvre quelle qu'elle soit, c'est de la penser comme une adaptation et pas de se dire tiens, j'ai envie de faire un jeu, j'ai vraiment une idée de jeu, et cette licence-là, du coup, ce serait peut-être sympa comme habillage parce que ça correspond vraiment à l'idée que j'ai. Et ça, c'est un gros défaut qu'ils ont eu. Alors que pourtant, que ce soit Dragon Ball ou Ranma, c'est deux œuvres qui se prêtent parfaitement et au RPG et au jeu de combat. Ça, pour les deux, tu pouvais faire un truc sympa, donc ça s'y prêtait. Mais il faut savoir le faire. Le problème, et là, je reprends l'exemple des jeux de combat, c'est que au début des années 90. Tout le monde a vu le succès de Street Fighter 2 et les gens se sont dit « Putain, mais en fait, c'est ultra cool. Le jeu de combat, ça pèse rien à programmer. T'as besoin que de quelques personnages et des stages. Ça m'a même coûté beaucoup moins cher que de faire un beat'em all ou un jeu de plateforme. » Que nenni, c'est super compliqué de faire un jeu de combat. Mais à l'époque, ils n'en avaient pas forcément la connaissance et ils ont appris sur le tas. Et je rajouterais que nous, en France, on a eu des fois des licences, on a vraiment eu du bol. On était souvent passé derrière et les Américains et les Allemands. Et il y a plein de jeux qu'on a pas eu, ou des jeux qui ont été transformés. Je pense justement au tout premier Ranma en jeu de combat qu'on n'a jamais eu chez nous, parce qu'en fait, il est sorti, c'était Street Combat. C'était donc Irem qui avait fait ça. En fait, ils avaient collé donc sur le jeu d'autres sprites. Donc, ça n'a strictement rien à voir. T'as pas la licence, tu les retrouves pas. Et comme le jeu est pas bon, bah, t'as pas envie d'y jouer.
Et il me semble, TMDJC, si je dis pas de bêtises, qu'il y avait un jeu au couteau Noken aussi comme ça, en fait, qui ne s'appelait pas au couteau Noken.
Ouais.
Et effectivement, on avait changé la sprite et le titre n'avait rien à voir. Mais en réalité, au Japon, c'était un jeu au couteau Noken.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'était sorti sur Master System.
Néophyte que je suis, sprite, ça veut dire quoi?
Est-ce que c'est la femelle du sprite, la boisson?
on a peut-être pas précisé. Techniquement parlant, c'est sur les consoles de l'époque, donc qui sont en général jusqu'à moins de 32 bits. En fait, c'était des amas de pixels qui bougeaient. Donc, quand vous jouez à Super Mario Bros, en fait, c'est Mario. Ça, c'est un sprite, par exemple.
Ah, oui.
Et puis le sprite en mouvement va faire que quand il bouge, c'est pas juste qu'il se déplace sur l'écran, mais il va y avoir une phase d'animation. Donc, tu vois les pieds bouger, tu vois les bras bouger. Donc, c'est ça qu'on appelle un sprite.
C'est l'exemple avec le jeu Dragon Ball. Ils avaient pris un sprite existant. On aurait dit Alex Kidd, par exemple. Et ils avaient mis une queue pour faire Son Goku, mais la tête ressemblait pas à Son Goku.
D'accord. T'as tout compris.
Ok. Donc, du coup, sur Street Fighter 2, notre cher TMDJC. Alors, justement, tu disais la jonction parfaite entre manga et jeu. L'incarnation, pour toi, c'est vraiment Street Fighter 2.
Ouais, pas d'ailleurs que Street Fighter 2, mais la licence Street Fighter en général, parce que c'est vraiment une licence qui s'est énormément inspirée de manga. Sans exagération, en fait, quasiment tous les personnages sont inspirés d'un manga. Capcom, c'est vraiment une boîte qui aime bien rendre hommage de manière plus ou moins discrète à des œuvres, qu'elles soient japonaises ou américaines. Tu prends un jeu comme Final Fight, la plupart des noms des personnages ou leur habillement, c'est des références à des hard rockers des années 80-90.
Ouais.
Voilà, des références à Guns N' Roses.
À Queen, si je dis pas de
bêtises. Tout à fait. T'as André le Géant qui sera transformé en Hugo,
oui.
Andor que t'as partout. Donc, même dans le monde du catch. Donc, voilà, ils vont vraiment piocher un petit peu partout. Et il y a un personnage au Japon qui est un petit peu un personnage que tu vas retrouver vraiment dans plein d'œuvres, qui est Masayama, qui est un karatéka ultra connu qui va être vraiment utilisé pour créer mais je sais pas combien de dizaines, de centaines de héros japonais. Et Ryu, c'est un petit peu son adaptation. Mais Ryu, il est passé par plein d'étapes et c'est un mélange de plein de trucs, parce que quand tu regardes les dessins de conception de Ryu dans Street Fighter 2, tu vas retrouver du Okoto no Ken dedans, mais tu vas retrouver du Rambo
avec le bandeau,
l'image que t'as de Ryu de dos qui va serrer son bandeau,
avec son bandeau,
le bandeau qui est rouge. Tu peux pas ne pas voir Stallone derrière. Donc, c'est tous les codes qui fonctionnaient à l'époque. Mais pour rester sur des mangas vraiment qui ont inspiré Street Fighter 2, donc je parlais de Jojo Bizarre Aventure, mais quand tu prends un personnage comme Guile, c'est difficile de pas voir Paul Nareff dedans.
Complètement.
Avec sa coupe.
Encore mieux, je pense à Astro M, qui est vraiment, alors je sais pas si les gens voient bien qui c'est, mais c'est un espèce de mec cyborg qui est un nazi, hein, grosso modo. Hein.
Et je trouve que tu retrouves aussi du JoJo's dans les positions des personnages. Quand
tout
ils
à fait.
Attendent avant de se battre, tu retrouves parfois la position un peu décalée, déformée qu'il peut avoir dans le style de Araki.
Tu fais très très bien de le pointer. Alors tu prends un personnage comme Rose, par exemple, c'est difficile de pas voir Lisa. C'est pas du copier-coller, mais c'est quand même très très inspiré. Alors des fois, l'inspiration, je disais tout à l'heure, je parlais de films, mais tu prends un personnage comme Balrog, boxeur chez nous, qui au Japon s'appelle Mike Bison, tu peux pas ne pas voir Mike Tyson derrière, évidemment.
Parce que les noms ont été inversés en Europe. Mister Bison, nous, c'est le boss de fin.
Aux États-Unis aussi, hein, d'ailleurs.
En fait, c'était Balrog le boss de fin au Japon. Et Mister Bison, c'est le boxeur.
Vega, c'est Vega le boss de fin. Ouais. Les trois noms ont été inversés. En fait, t'as une version officielle et t'as une version un petit peu plus officieuse des Américains. Mais c'est clair que le premier personnage qui a réellement posé problème, c'était Tyson. Donc l'idée, c'était d'éviter en fait un lien
Mike
direct.
Tyson,
certains parlent d'une peur d'un éventuel procès. Je suis pas certain que franchement Tyson aurait fait un procès pour ça. Mais en tout cas, c'est un moment donné où il avait pas non plus une image de ouf. Voilà, les Américains se sont dit, bon, on prend pas le... Voilà, on échange. Le boss de fin s'appellera Bison, en plus, ça fait classe. Et puis notre boxeur, il s'appellera Vega. Et là, t'as un mec de chez Capcom US qui a fait Vega, qui est vraiment un nom efféminé, voyez les R guillemets. On va plutôt le coller au Toréador qui a les cheveux longs. Et donc, ils ont inversé aussi le nom. Alors, ce que je vous dis est totalement officieux, parce que ça, c'est un truc que Capcom ne dira jamais, évidemment. On va pas rester sur Street Fighter tout le temps, parce qu'il y a... Moi, je peux vous faire tout un podcast dessus et on va essayer de condenser, mais je peux pas ne pas vous parler de Camille, qui est vraiment, quand vous regardez ses poses et surtout ses techniques de combat, qui est vraiment un hommage à Gali de Gumn, ouais. Mais c'est un truc, c'est évidemment évident. Et moi, Gali est un personnage que je surkiffe. Donc forcément, quand t'as un personnage qui est aussi bien adapté, parce que jouer Camille est un véritable plaisir dans Super Street 2, c'est absolument génial.
Les moves, ils rappellent vraiment ceux de Gali. Ouais. Mais j'y avais jamais pensé.
Blanca, moi, me faisait penser bien sûr à l'incroyable Hulk, mais mélangé avec Sonic. Ah. Un Sonic méchant qui a mangé trop d'épinards et des épinards radioactifs. Un truc comme ça à toi.
Alors, j'ai pas d'informations sur Sonic. Donc ça, je pourrais pas répondre à ta question. Et je suis pas certain, vu que Sonic et Street Fighter 2 sont à peu près sortis à la même époque, si ça peut jouer ou pas. Mais clairement, Blanca est un hommage à Hulk. Alors pas à Hulk tel qu'on peut le voir dans les comics, mais c'était vraiment un clin d'œil à l'incroyable Hulk, la série qui était sortie en 78.
Lou Ferrigno,
ouais.
Oui, c'est vrai.
Au départ, avant de s'appeler Blanca, c'était Armor Blanca. Et c'était un grand noir avec vraiment tous les clichés que tu pouvais voir derrière. Et puis, au fur et à mesure, en fait, ils ont retiré la couleur noire pour passer justement sur ce côté Hulk.
Après, c'est des archétypes, donc il va avoir des clichés forcément avec Chun-Li, avec Honda, avec Dhalsim.
C'est ça, t'as le Bruce Lee de service avec Fei Long. D'ailleurs, il y a quasiment tous les jeux de combat ont un Bruce Lee, hein, donc il fallait que ce soit là, quoi.
Chez PSF Manga, on joue que avec Zangief. On est obligé.
C'est ça. D'ailleurs, je me suis rematé le film d'animation Street Fighters Animated, la bonne animation de
très,
l'époque,
très bonne adaptation.
Qui est vraiment chouette.
Le film, il est exceptionnel. La série Street Fighter 2V, ouais. C'était sympathique, mais le film, je sais pas si c'était une OAV ou un film à l'époque.
C'est sorti au cinéma au Japon.
D'accord. Donc.
Sinon, nous, ça a été un direct tout vidéo.
Il est sorti dans la collection manga vidéo. Ah, qu'est-ce qu'il était beau ce film.
Avec la bonne animation des années 90. Et là, du coup, effectivement, la jonction est parfaite. Manga, jeu vidéo. On a ce jeu qui débarque. Il n'incarne pas une licence. Il va créer une nouvelle licence. Voilà, effectivement, on n'avait pas forcément de bons jeux Dragon Ball. On n'avait pas forcément de bons jeux de Ranma et ça, mais on avait Street Fighter. Et vraiment, évidemment, pour nous, dans notre tête, c'est un manga presque. Voilà, tu joues à un manga, en fait.
Exactement ce que ça me fait. Moi, les premières fois où je regardais juste Street tourner, même sans y toucher, c'est la finesse de l'animation. Tu parles d'animation, mais c'est ça. T'as l'impression, en fait, de voir un personnage en mouvement. Puis,
de jouer un manga.
T'as le Hadoken. Tu peux pas ne pas penser au Kamehameha. C'est à l'époque de Dragon Ball, forcément, t'y penses. C'était un mélange de plein de trucs. On parlait de tous les mangas, mais il y a énormément de références à des films comme Bloodsport, par exemple, qui était très à la mode à l'époque. Donc, forcément, toi, t'as un jeu qui est cette sorte de combinaison de tout. Tu fais, mais c'est dingue. Et je pense que c'est pour ça que ça a si bien marché, d'ailleurs.
Avec Jean-Claude Van Damme qui va incarner Guile après dans le film.
La boucle est bouclée.
Le film Street Fighter. Donc...
Et la boucle, ça a d'autant plus bouclé qu'ils vont sortir un jeu tiré du film, tiré du jeu, qui était plus ou moins tiré
exactement,
du film.
C'est ce que j'allais dire. c'est un truc de ouf. à la Mortal Kombat.
Tout à fait.
Ouais, ce jeu est aussi assez mythique. le jeu tiré du film, tiré du jeu. C'est un truc de ouf. Et oui, donc voilà, pour nous, effectivement, génération 90, Street Fighter, ça incarne toute cette belle époque de cette animation-là. Quoi d'autre thème DJC ?
Pour boucler la boucle et tout doucement entrevoir notre chapitre suivant, c'est que ce qui est absolument dingue, c'est que Street Fighter fonctionne tellement bien que t'as des mangaka qui demandent à Capcom de dire ben moi je peux pas faire un truc là-dessus parce que votre licence vraiment je la kiffe et on va voir un manga débarquer qui s'appelle Sakura Gambaru. Là tu vois que c'est vraiment toute une industrie qui est cohérente. C'est là les Japonais pour ça sont vraiment très très forts.
Je comprends pourquoi t'as voulu parler de Street Fighter maintenant, parce qu'effectivement, j'avais jamais réfléchi à cet aspect-là, mais c'est peut-être la première fois où on avait l'impression de jouer à un anime. Mmh. Cette sensation-là, elle a démarré avec les consoles 16 bits. Il y a d'autres jeux qui m'ont donné cette sensation de jouer avec des personnages d'anime, alors que c'était pas des adaptations d'anime, c'était du côté Mega Drive, Street of Rage. Ouais. J'avais aussi l'impression de jouer avec des personnages d'animation.
Excellent jeu.
C'était un beat'em all, ça, non ?
C'était un beat'em all, mais t'avais aussi vraiment des personnages qui étaient très manga. Ouais. En plus, on se rendait pas vraiment compte complètement. C'était inconscient parce qu'à l'époque, on ne savait pas que ce qu'on regarde à la télé était japonais. On savait pas non plus que les jeux étaient japonais. Donc c'était inconscient, mais on savait qu'il y avait un truc qui nous rapprochait de ce qu'on voyait dans les dessins animés et on kiffait de jouer avec des personnages qui ressemblaient à Sangoku ou autre. Et il y a ce truc-là qui devait être inconscient et qui a fait que ça a fonctionné certainement.
De toute façon, il y a un truc qu'ont les Japonais, pour des raisons purement économiques, ils avaient une animation qui était très pauvre. Tu prends un épisode de Goldorak aujourd'hui, t'as beau aimer la licence, quand t'as une animation qui est faite en 3 frames, moi tu vois que c'est un peu dégueulasse. Mais les Japonais ont un truc pour eux, c'est qu'ils ont cette faculté à prendre le dessin qui va faire que le personnage est classe et s'appuyer dessus. Le personnage, il est toujours charismatique. Donc quand t'as le jeu vidéo qui a les mêmes problèmes que l'animation au départ, parce que tu prends les jeux qui sont sortis sur la NES, elle a pas beaucoup de puissance, elle a pas beaucoup de mémoire, donc t'es obligé de t'adapter. Et je prends un jeu, on parlait de Capcom, et je prends un jeu comme Megaman, qui de base devait être une adaptation de Astro le petit robot. Capcom a pas la licence.
Et ouais,
ils se disent, bah non, mais nous, on y tient quand même à notre petit jeu, donc ils font un jeu quand même, et grand bien leur fasse parce que, bah, le jeu est génial. Le personnage, il est quasiment pas animé. Et vraiment, et mais il est toujours charismatique. Les Japonais, pour ça, ils sont très très doués.
C'est vrai, Megaman, Rockman.
Alors justement, Joe, tu voulais nous parler de 2-3 jeux qui t'ont marqué dans ce type de licence.
Moi, je vais vous parler que de licences que j'ai lues. Il y a effectivement des grandes licences où on a maintenant quasiment un jeu chaque année, on pourrait dire presque. Bon, je vais commencer par le classique, donc Saint Seiya. Alors, on a quand même eu quelques jeux donc en France. On a eu donc celui sur NES. Et puis après, faut attendre la PS2. On en a quand même deux sympas, donc le Sanctuaire et Hades. Et ensuite, donc sur PS3, on a la bataille du sanctuaire Brave Soldiers. Et puis ensuite, sur PS4, c'est...
Soul Soldier.
Et s'il fallait en retenir un, ce serait vraiment la bataille du sanctuaire. Je l'ai beaucoup aimé, celui-là.
Je trouvais là, tu montais les marches. Sympa. Tu montais les marches.
Parce que là, du coup, ce que tu disais, Max, tu sais...
Ouais.
Exactement. Là, tu montais les marches. Et c'est ça qui était cool. T'avais la phase montée des marches en beat'em all, puis après t'avais les différentes maisons.
Ouais.
L'histoire est bien respectée, il y a des bonnes cinématiques, etc. Donc
t'as les seiyuu d'origine.
T'as les seiyuu. Alors c'est souvent un argument de vente qu'il va avoir maintenant sur les jeux, c'est qu'ils disent avec les voix originales.
Ah bah moi je vais te dire, hein, pour faire une parenthèse là-dessus, nous quand on a eu c'était les Dragon Ball Budokai, t'as les seiyuu d'origine. Le deuxième, te sort avec les voix américaines. En France, mais tout le monde a pété un câble. Ce qui fait que dans le troisième, tu pouvais choisir si tu jouais avec les voix japonaises ou américaines, parce qu'ils ont bien compris, ils ont fait les Français, ils sont relous.
Donc évidemment, l'autre grande saga, bah, c'est les Dragon Ball. Alors tout ce que je dis là, effectivement, nous on a eu que quelques jeux. Faut bien savoir qu'au Japon, il y en a énormément plus. Et en plus, dans tous les styles, il y a du RPG, il y a plein.
Il y a des jeux de cartes.
Il y a plein de jeux de pachinko au Japon qu'on n'a pas eu.
Oui, pachinko.
Pour finir sur Saint Seiya, on a tous déjà vu des vidéos de jeux de pachinko. Ils te font des films. Une fois, j'ai vu un truc de Saint Seiya, je pensais que c'était la bande-annonce d'un nouveau film. Je me suis dit, putain, ça a l'air exceptionnel. Et en fait, à la fin, c'était le jeu Pachinko. C'était dingue.
Mais l'animation,
mais
elle
est dingue. Mais pourquoi ils nous font pas ça en film?
Mais même quand tu regardes les jeux de cartes qui sortent sur téléphone, quand tu vois la bande-annonce des jeux de cartes sur téléphone, des fois, elle est mieux animée que les trucs qui vont sortir au ciné. Tu fais, bah non, les gars, non, soyez cohérents.
Donc, pour revenir sur Dragon Ball, donc moi, celui que j'ai gardé vraiment dans mon cœur, c'est le Budokai 3 que j'avais vraiment adoré. J'étais étudiant, je l'ai rincé.
Entièrement d'accord.
Les animations était terrible,
les
transformations, les doublages. Il était vraiment très très classe, ce Budokai 3. Donc évidemment, des Dragon Ball Kakarot qui est sorti. Et puis si l'autre que je retiendrai, évidemment, c'est le Fighters, qui est incroyable.
Le Kakarot, franchement, je l'ai acheté parce qu'il était en promo et je me disais, je vais juste tester pour voir ce que ça donne. Je dois avoir 700 heures dessus parce que je suis passé partout. Parce que en fait, le jeu m'a vraiment hypé, en fait, in fine. Et il y a une phase, notamment dans les DLC, que j'ai trouvé absolument fantastique, parce qu'à un moment donné, tu peux jouer Badak, pour le dire en français. Quand tu joues à ce DLC-là, il y a un moment donné, ça se passe exactement comme l'anime. Tu dois te battre contre X personnages en même temps. C'est la première fois que je vois un jeu vidéo avec un gameplay aussi accessible qui te permette de faire des trucs de malade. Alors au départ, c'est dur parce que ça va te demander d'attaquer, de téléporter au bon moment pour pas prendre de coups. Mais une fois que tu fais ça, il y a un moment donné, le jeu, mais sans exagération, ça dure presque 5-6 minutes, ce qui est super long quand tu joues à fond, 5-6 minutes. Où tu passes ton temps à poutrer tout le monde, te téléporter pour pas prendre de coups, et si tu veux jouer nickel, t'as l'impression pour la première fois de jouer l'anime. Et alors ça, franchement, bravo, hein.
Bah, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'évoluer aussi dans les mécaniques de jeu, parce que sinon les jeux se ressembleraient tous, ce serait vraiment des clones. Alors je ne vais pas traiter, parce que je n'ai pas lu Naruto, mais effectivement Naruto a aussi toute une pelletée de jeux, les Ultimate Ninja Storm, etc., dont certains apparemment sont vraiment excellents.
Les retours de gens qui connaissent la licence et qui ont joué disent que tu as certains jeux Naruto qui sont meilleurs que les jeux Dragon Ball qui étaient sortis à la même époque.
C'est ça. Donc évidemment chaque licence a ses jeux. Alors Bleach en a connu, alors plus maintenant, mais il en a connu aussi de différentes qualités, même sur Wii, hein, moi j'en avais un sur Wii où il fallait se battre avec donc le nunchuk avec la Wiimote, fallait essayer de faire les coups, c'était un peu bordélique. Il y en avait un sur PS3, tout comme le jeu Okutonoken aussi sur PS3 qui était un peu une purge. Hein. Donc en parlant des Okutonoken, bah le dernier qui est sorti, que j'ai commencé, c'est le Fist of the North Star Lost Paradise sur PS4. Alors qu'un jeu sympa, franchement, bon, pas extraordinaire, mais un jeu sympa, action-aventure, un peu RPG. Alors, bon, il y a des trucs un peu what the fuck, mais finalement, c'est marrant. Ken peut être barman, donc en costard, et il fait des techniques spéciales pour tailler des glaçons. Donc, oui, alors tu dois faire les trucs au shaker, il fait...
Et après, il sert le verre et il fait « Tu ne le sais pas encore, tu es déjà bourré.
» Alors par contre la ville qu'ils ont créée, ben je trouve elle est vraiment bien, respecte bien l'univers du jeu, on est vraiment tout le côté Mad Max et tout, c'est vraiment vraiment pas mal. Donc j'ai joué quelques heures, pas encore trop, mais c'est un jeu plutôt sympa. Alors évidemment je pense, et ce sera aussi un des défauts de ces jeux, c'est qu'ils sont souvent un peu répétitifs, surtout le côté beat'em all qu'il peut y avoir parfois dans ces types de jeux. Donc voilà, Fist of the North Star, Lost Paradise, plutôt sympa. Alors les bonnes petites surprises, le truc qu'on n'attendait pas du tout, et là je me suis assez régalé, c'est le Captain Tsubasa. Oui, sur la PS4.
Oui.
Alors là, je me suis régalé.
Très bonne
vraiment,
surprise.
Vraiment, c'est jouissif de se faire la catapulte infernale, de faire le tir du tigre. Enfin, c'est franchement, tu joues rien que pour ça à la limite.
Ce que j'allais dire. Vous allez retrouver la quasi-totalité des trucs qu'il y a dans l'anime, quoi. C'est un truc de dingue.
Ouais, c'est trop ouf. Alors évidemment, ça a pas une durée de vie extraordinaire. Le mode histoire, il est sympa. Et ah bon, quand t'as fait 150 fois la catapulte infernale, après, bon, t'es un peu lassé. Mais mais même les jeux Saint Seiya aussi. Hein. Les jeux Saint Seiya, c'est un peu ça, parce que quand t'as fait 10 000 fois la même attaque, bon après, au début t'as l'effet waouh, après c'est sympa, puis après moi j'avais joué un Captain Tsubasa en émulation à la base, c'était un RPG, donc tu baladais le joueur, il arrivait devant, puis tu devais faire des choix.
Qu'est-ce que c'était chiant, oh là là.
Mais c'était long en plus, le rythme du jeu, comme les épisodes, ça durait 10 ans et tu...
Je sais pas si tu vas en parler, et il faut après aimer ce genre de jeu, mais t'as certaines adaptations de Berserk qui sont pas des jeux ultra accessibles parce que c'est grosso modo c'est du mousseau.
Effectivement, Berserk. Donc il y en avait un sur PS2 ouais. Que je n'ai pas, et Band of the Hawk, pareil, petite surprise. Et effectivement, on est sur du mousseau. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est à la Dynasty Warrior. D'ailleurs, c'est les mêmes studios, c'est Koei Tecmo qui ont fait pas mal de ce style de jeu.
Tu reconnais leur style tout de suite. Hein.
Ouais, vas-y Max.
Non, je voulais dire qu'on reconnaît bien le style de Guillaume Musso.
je sais pas, le plus rigolo, c'est je sais pas en fait si on s'affiche en rigolant ou parce qu'on a aussi la ref.
Je sais pas ce qui est le pire, effectivement.
J'enferme cette parenthèse.
Tu disais tout à l'heure, TMDJC, que des fois, effectivement, il y a des développeurs qui disent « j'aimerais bien prendre un univers de manga pour aller dans un style de jeu ». Effectivement, le style Musou, pour le coup, se prête totalement à Berserk.
Ça s'est prêté très, très bien.
Des centaines d'ennemis avec Guts, c'est pareil, c'est jouissif.
Le principe du Musou, grosso modo, c'est vous êtes tout seul face à une tripotée d'ennemis et vous pouvez le faire avec n'importe quelle licence. Hein. Là, il y a des Zelda qui sont sortis sur le sujet où vous pouvez incarner n'importe quel des personnages.
Hyrule Warriors.
Entre autres, oui, tout à fait.
C'est une sorte de beat'em all, en fait, les Musou.
C'est un petit peu, si jamais on doit comparer ça au shoot'em up, t'as des jeux où tu vas te retrouver, t'as 5-6 projectiles à l'écran et tout d'un coup, en fait, t'as des shoot'em up où c'est quadrillé de projectiles.
T'as un pixel pour te mettre.
C'est ça, moi, c'est le genre de jeu, en fait, je meurs très vite parce que je suis pas bon à ça, mais les Musou, je sais pas pourquoi, j'aime bien. Pourtant, c'est ultra répétitif. Tu vois, on prend le jeu Berserk, y a des techniques de frappe qui vont te permettre de faire de l'espace et puis tout d'un coup, tu vas te concentrer, tu vas faire une super grosse attaque qui va tout péter, mais tu prends un risque aussi en la plaçant. Je trouve que le gameplay est assez intéressant pour que si t'es pas peur de la répétitivité, en fait, tu t'amuses parce que c'est le délire, en fait. C'est, y a un moment donné, t'es Guts.
Ah oui, mais le style Musou se prête tout à fait à Berserk. Il y a vraiment ce truc de tu sors ta lame de 4 mètres et tu défourailles tout le monde, là, ça c'est justif. C'est un peu le point commun de tous ces jeux. Hein. Ce qui est génial, c'est justement de sortir les gros coups, de faire les grosses attaques qu'on connaît avec le nom, le gars qui gueule en japonais le nom de l'attaque, quand tu prends un Dragon Ball, quand tu prends un Saint Seiya, quand tu fais toutes ces techniques et tout ça, et ben c'est là que tu prends vraiment ton pied, parce que c'est vraiment hyper sympa.
Les mangakas se sont inspirés des catcheurs qui criaient le nom de leurs attaques pour placer leur truc, et c'est un truc qui est devenu omniprésent dans l'animation japonaise et donc par extension dans le jeu vidéo. Et c'est vrai que en tant que joueur, ou même quand t'es plus gamin, c'est en tant que petite fille ou petit garçon, le fait de pouvoir balancer son truc et que tout le monde comprend ce que t'es en train de faire, que t'es juste en train d'agiter tes mains, y a un côté effectivement assez jouissif. Et oui, c'est vrai que les premiers jeux Dragon Ball en jeu de combat étaient pas dingues, mais t'entendais les Kamehameha Et là, bah, ça y est, tu partais, quoi.
T'étais dedans.
Pour conclure, juste deux petites choses. Donc, effectivement, ce sont des jeux beaucoup, qualifierait ça quand même de fan service, faut pas se le nier. Et aussi, c'est vrai que les éditeurs, ils savent qu'en sortant avec cette licence-là, ils vont faire du chiffre, ça va vendre, chaque jeu Naruto va se vendre, chaque jeu One Piece va se vendre, etc. Donc bon, c'est pas des jeux que je conseillerais forcément à des gens qui connaissent pas la licence, c'est mieux de connaître la licence parce que justement c'est là qu'on va prendre le pied. Et le dernier petit conseil, parce que là ça c'est vraiment exceptionnel pour le coup, c'est Ni no Kuni.
Ah oui.
Alors là c'est la démarche inverse, c'est les gens qui ont appelé Ghibli, ils ont dit bon bah on aimerait faire un jeu avec vous, il y a les musiques de Joe Hisaishi et vraiment là bah comme on disait tout à l'heure, tu joues à un Ghibli.
Ce jeu est dingue.
Tu joues à un Ghibli.
Ce jeu est dingue. Ce qui veut bien dire que tu peux, même si tu n'adaptes pas une licence, parce que là c'est plutôt un univers, mais les jeux à licence d'aujourd'hui sont quand même bien meilleurs que les jeux à licence qu'on avait avant.
C'est pas les premiers. Alors là, ils sont partis chercher un style, Miyazaki, Ghibli, mais Dragon Quest était allé vers Akira Toriyama pour illustrer les jeux Dragon Quest.
Ouais.
On en reparlera après dans la partie manga.
Bien sûr.
Quand on était petit. Et qu'à Fly qui est passé à la télé, je sais pas, il y avait un truc, je sais pas si vous avez eu ça, tu dis c'est bizarre, ça ressemble un peu au niveau du design à Dragon Ball. Il y avait un lien parce qu'en fait au Japon, Toriyama avait fait le design des jeux qui ont après été adaptés.
Voilà, c'est bon pour moi. Vas-y Max.
Pour conclure cette première partie et avant de passer à la deuxième partie, on va plus parler des mangas. Un petit jeu. Donc j'ai été rechercher des adaptations complètement inconnues en tout cas chez nous. Je vais essayer de vous les faire découvrir. Alors, on va commencer par le premier qui m'a très surpris. Et effectivement, c'est vrai que j'y avais jamais pensé. Il y a une licence énorme du Shonen Jump qui a été adaptée une seule fois en jeu vidéo. Et sur une console presque inconnue chez nous.
Une grosse licence qui a été adaptée une seule fois?
Une très, très, très grosse licence. Et finalement, c'est étonnant que c'est pas été plus adapté. Alors, je vais vous donner un indice. Masu.
Alors... Tu penses à City Hunter ?
City Hunter, effectivement, qui a été adapté une seule fois en 1990 sur PC Engine.
Ouais.
Ah, sur la PC Engine.
Spécifiquement sur le CD-ROM en plus de la PC Engine, donc tu peux même pas y jouer avec n'importe quelle version.
Alors tu peux retrouver quand même Ryo Saeba dans le G-Star Victory VS Plus où tu peux te battre avec Ryo Saeba et c'est assez marrant, il balance sa mini et tout, il a un bazooka et c'est assez sympa.
Tu vois, moi j'aurais rêvé à l'époque, vous vous souvenez les bornes d'arcade avec les flingues.
Time Crisis.
Un Time Crisis City Hunter, ça aurait pu être très très cool.
Ah, c'est une idée.
Ce qui aurait été génial, c'est qu'il cumule les trucs. T'es une phase FPS, que t'es une phase beat'em all, que t'es une phase conduite. Ouais. Le jeu se prête à tellement de gameplay différents.
C'est assez étonnant. Alors je sais pas, est-ce que c'est Tsukasa Ojo qui a bloqué tout.
Une phase karaoké dans un bar à hôtesse.
Une course poursuite avec Kaori derrière.
Ah oui.
Je sais pas pourquoi il n'y a pas eu plus d'adaptation. Alors, deuxième jeu étonnant. Un jeu qui est adapté d'un des plus grands films d'animation, si c'est pas le plus grand film d'animation japonais de tous les temps. Il y a des motos dedans.
Ah, Akira.
Akira.
Akira. Et qui a été adapté sur PlayStation en 2002. C'est un jeu de flipper.
Ouais. Akira flipper.
Et qui est pas dingue.
En plus, merde.
Je sais pas ce qui s'est passé. Akira, jeu de flipper. C'est tellement décevant, en fait. Tu te dis non, mais non, c'est pas ce que j'ai envie. Moi, je veux pas un jeu de flipper. Moi, je veux être sur la moto.
Mais si, c'était logique. C'est Tetsuo, il devient une boule à un moment donné.
Ah oui.
C'était logique, cherche pas.
On a tous envie de faire le stage sur la moto, sur les autoroutes. C'est ça qu'on voulait, c'est pas un jeu de flipper.
Street avec le clown.
Donc, très décevant aussi. Ensuite, on a eu, sur Super NES, en 1994, un jeu de plateforme qu'on n'a pas eu en France, adapté d'un manga sans parole.
Gone.
Ah. Bien joué, voilà. Mais oui.
Il y a eu un Gun, un jeu de plateforme Gun sur Super NES.
Je l'ai déjà vu.
Donc très très étonnant. Et enfin, bon après il y en aura deux autres petits que je vous dirai, mais sans essayer de vous faire découvrir. Mais j'ai été très surpris du nombre d'adaptations d'un célèbre shoujo manga qui sont la plupart des jeux de simulation. Un manga que Dost aime beaucoup, je crois que t'aimes beaucoup cette autrice. Et il y a eu beaucoup de jeux sur PS2, sur PSP, sur DS. Une fille qui était dans un groupe de rock.
Jam et les hologrammes.
Manga très connu.
Mais non.
Très connu comme manga.
L'autrice qui est malade, qui a pas fini sa série, au désespoir
Nana.
De beaucoup de personnes. Nana.
Ah oui, il y a
Il y a beaucoup de jeux Nana, et c'est des jeux de simulation. Alors, je sais pas de simulation de quoi, mais j'en ai vu plein.
De mode, elle était très dans la mode, peut-être lié de stylisme.
Pour finir, un Dr. Slump sur PlayStation en 1999. Je ne sais pas du tout ce que c'est.
Ah, j'ai vu ça, mais j'y ai pas joué.
Ça doit être énorme.
Il y a eu un Orange Road, Max et compagnie, sur NEC. en 1988. Pareil, j'ai pas trouvé d'infos. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça devait être sympa. Et pas mal de jeux Golgo 13 en borne d'arcade chez Sega. Pour le coup, là, ils ont fait des jeux de tir, en fait.
Ouais, ouais, c'est du FPS pure souche. Si on aime le style, qui sont pas mal, hein, d'ailleurs.
Il y a eu des Slam Dunk aussi, mais c'est pas arrivé chez nous. Je sais pas ce que les jeux valaient.
J'y ai pas joué non plus. Je ne pourrais pas t'en parler. J'ai testé le Cobra, qui est vraiment pas ouf, qui était sorti sur NEC aussi, si je dis pas de bêtises. En adaptation, on a un shoot'em up où on va retrouver Grandizer, notre Goldorak,
ouais.
Où on va retrouver également Mazinger et Great Mazinger.
Ah, je l'avais fait celui-là, il était vraiment très bon, j'avais beaucoup aimé. Oui, oui, moi j'avais fait un Mazinger Z, je crois.
Le shoot est pas dingue, mais comme t'as tous les thèmes et que tu vas retrouver tous les ennemis,
c'est,
tu vois, c'est comme avec Dragon Ball, on fait ok, je prends, vas-y, donne, balance.
C'est ça. Bon, bah super ce petit quiz.
On passe à la deuxième.
Bah ouais, alors qu'est-ce qui commence, Melouloute? C'est toi, Doz, ou c'est toi,
Max? Doz.
Allez. Ah bah vas-y, mon
Alors, du coup, donc ouais, on va parler de plutôt dans le sens inverse des jeux vidéo qui ont créé du manga, quoi. J'ai pas beaucoup joué, moi, aux jeux vidéo. En fait, j'avais des consoles, mais je passais vite sur des jeux PC.
Les gens qui jouaient sur PC, ils étaient au-dessus des licences, ils étaient au-dessus de ça.
C'est clair.
Nous, on joue à Baldur's Gate.
Je joue au Chevalier de Baphomet, comme ça, tu vois.
Ce troll gratuit.
Alors moi, je vais vous parler d'une méga ultra licence, parce que j'ai quand même joué à la Game Boy quand j'étais petit, comme je l'imagine vous tous, à Pokémon, donc le jeu vidéo Pokémon rouge et bleu, donc de la méga licence que c'est devenu maintenant, avec des produits dérivés dans tous les sens, jeux de cartes, bien sûr, mais aussi manga.
Le jeu maintenant sur Pokémon, c'est de trouver l'endroit où ça n'a pas été adapté. Oh regarde, j'ai des fourchettes Pokémon, mais oui, normal.
J'ai un petit slip Pikachu, je ne le mets pas souvent parce que j'ai un peu honte, mais c'est dommage quoi. Et donc voilà, donc à l'époque, ce jeu Pokémon rouge et bleu qui est sorti donc en 96 hein, chez Nintendo sur la Game Boy. Donc nous, on l'a eu en France en 99.
Le pire, c'est que la Game Boy est arrivée en fin de vie, que bah voilà, il préparait la suite, que c'était mort, etc. Que t'as un mec qui arrive avec un jeu qui l'a proposé à tout le monde lui a dit non, mais t'es gentil avec ton jeu de merde là. Sony par exemple, je vais vas-y, barre-toi.
Quelle erreur.
Il a été voir Nintendo, il a regardé le truc et a fait ouais. Viens, on va travailler ensemble. Et la Game Boy, elle a duré combien de temps derrière? Ouais, rien qu'avec clair. Cette licence.
Ils ont vendu 30 millions de jeux Pokémon rouge et bleu, quoi.
Et donc, sur le manga?
Le manga, il y a plusieurs mangas, mais moi, j'ai pris Pokémon La Grande Aventure de Hidemori Kusaka, et le dessinateur, c'est Mato. Donc, c'était édité par la Shogakukan en 97, donc c'est vraiment au début de la licence Pokémon, donc un an après le jeu vidéo. Et donc, c'est sorti chez Glénat en 2001. En 6 volumes. Là, du coup, moi, j'ai eu l'édition de Kurokawa, donc qui date de 2014, qui est en 3 gros volumes assez épais, quoi.
Et ça s'appelle La Grande Aventure, c'est ça?
C'est ça, Pokémon La Grande Aventure. Ce qui est vraiment cool sur ce manga, donc en fait, ça retrace l'histoire plutôt du jeu vidéo, justement, Game Boy, Pokémon rouge, bleu et du jaune, parce que t'as Pikachu qui apparaît dedans. Donc, ça reprend vraiment toute l'histoire, hein, donc c'est vraiment lié au jeu vidéo, donc moi je trouvais ça très sympa, parce que ça m'a fait un peu la nostalgie de ce que moi je jouais à la Game Boy quand j'étais petit, quoi. Et ouais, tu retrouves un peu tous ces personnages, tout la Team Rocket que t'avais oublié, tu vois. Et c'est marrant parce que je vais chercher, moi, la Team Rocket du dessin animé, donc c'est le duo Jess et James, mais qui sont pas dans le jeu, en fait, de rouge, bleu, jaune. Et donc, qui apparaissent pas dans le manga. Et en fait, j'ai été extrêmement surpris, c'était par la qualité du manga, parce qu'en fait, bon, je l'ai lu à la base pour l'émission, un peu pour voir un peu comment ils avaient adapté. Et en fait, c'était vraiment une super adaptation. Alors, c'est prévu quand même assez pour les enfants.
Ouais, c'est ce que j'allais te demander, Doz. C'est pas un peu trop Kodomo, tu vois? C'est pas un peu trop pour enfants
J'ai trouvé même des trucs un peu chauds pour le public visé, quoi. Enfin, t'as des Pokémon qui meurent, des villes qui se font attaquer, et je crois qu'en fait, t'as des gens qui meurent, quoi, en fait. C'est pas montré rien du tout.
Ah oui, chaud dans le côté violence. Après, la notion de la violence et de la mort au Japon n'est pas la même que en Europe.
D'ailleurs, vous avez déjà eu l'occasion d'en parler dans certaines émissions, donc je ne vais pas vous paraphraser, mais effectivement, on rappelle quand même entre la culture française et japonaise, il y a des trucs qui vont sembler normal au Japon, qui vont nous choquer en France et vice-versa. Et effectivement, la violence, elle est très relative.
C'est ça.
Par contre, quand t'as dit c'est chaud, y a pas
des barres à hôtesse,
Pokémon un peu Pikachu, des trucs comme ça.
Des Pikachu.
Pikachu. Non, là, y a des trucs rigolos comme Sacha qui est un peu un petit côté dragueur, qui du coup, s'il y a une prof Pokémon qui est jolie, il est chaud, quoi.
C'est Macron.
Bon, je trouve ça un peu.
C'est
il est chaud, quoi. C'est quand même un peu chaud, quoi. Bon, alors, franchement, du coup, le scénario était vraiment très bien. C'est plutôt bien dessiné. extrêmement surpris. Et en fait, finalement, j'ai dévoré les trois gros tomes tranquille, quoi. J'aurais eu du mal à rentrer dedans si c'était vraiment trop, trop enfantin, mais il y a une certaine complexité du scénario, une intrigue qui est assez poussée. Et je trouve ça sympa en plus en tant qu'adulte, un peu moins simplé que
ce qui n'y paraît.
Donc, moi, franchement, Pokémon, je trouve ça super sympa. Donc, ouais, franchement, je me suis bien régalé.
Et t'aurais envie de lire les autres ?
Non, parce que j'ai trop de trucs à lire.
C'est clair.
Mais du coup, dans mon entourage, je commence à avoir des enfants qui commencent à avoir l'âge de lire, parce que j'ai faire un peu de pub pour les parents.
Ouais, tu vas conseiller.
Je pensais que tu commençais à avoir des enfants cachés dans ton entourage qui commençaient à avoir le bon âge.
Papa, oh merde. Mais là, c'est clair que je vais refourguer mes trois volumes Pokémon, je vais les refourguer un peu à des parents pour faire découvrir ça aux enfants. Quoi.
Bon, bah super. Super, mon dose, super. Max, à toi. Tu vas nous parler aussi de manga.
Ouais, je vais vous parler de manga. Je pense que le manga le plus intéressant, tout manga confondu, qui a pu sortir, adapté d'un jeu vidéo, c'est Dragon Quest, la quête de Dai, qui est exceptionnel, qui est un des meilleurs shonen de tous les temps, qui est un classique absolu, qui est en train de ressortir en ce moment, d'ailleurs, chez Delcourt Tonkam. C'est vraiment un chef-d'œuvre, il faut pas passer à côté. Il y a aussi Emblem of Roto et Les Héritiers de l'Emblème. Emblem of Roto, c'était sorti chez Kiyun, donc la quête de Dai 90, Emblem of Roto 91, qui était une très bonne série aussi, mais quand même en dessous de la quête de Dai. Et là, dernièrement, 2006, c'est chez Mana Books, Les Héritiers de l'Emblème, qui fait partie aussi donc de l'univers Dragon Quest. Il y a eu une adaptation anime à l'époque du Club Dorothée, ça s'appelait Fly. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça, ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Peut-être parce qu'il y avait deux petites ailes.
Ouais, ils se prenaient pas trop la tête. Hein.
C'était trop dur pour Bernard Minet de chanter Dragon Quest, le plus grand des héros, c'est Dragon Quest. Ça n'allait pas. Voilà, ils ont dû changer. Donc ça, grand classique, on va pas développer là-dessus, parce que pareil, on peut faire une émission sur Dragon Quest. Mon conseil, belle surprise aussi, que j'en attendais pas grand-chose et que j'ai beaucoup aimé, c'est Resident Evil Marawa Desire.
Ah, je l'ai pas lu.
Chez Kurokawa, qui est vraiment très cool. Très bonne adaptation aussi dans l'univers de Resident Evil, où il y avait aussi possibilité de faire quelque chose de bien, et parfois on est très déçu, notamment avec les adaptations.
Les films,
voilà.
Ah, il y a des fans de la licence live.
Oui, mais il y a des vicieux.
C'est vrai, il y en a.
Tu sais, je les connais, les vicieux.
Et pourtant, ils sont pas chez Nanarland, hein, je tiens à le préciser.
on les connaît, les Daniel Andreev et tout ça, là, qui font des super Resident Evil Battle et qui regardent tout ça. Non. Pour moi, ces personnes sont vicieuses.
Elles sont déviantes.
C'est déviant, voilà. C'est des personnes déviantes. Mais donc là, l'adaptation de Resident Evil chez Kurokawa, je crois que c'est en 5-6 tomes.
Ah oui, c'est court en plus.
Ouais, c'est court, efficace, bien dessiné.
Ah, tu me l'as vendu.
Ouais, j'attendais pas du tout, et puis j'ai pris du plaisir. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre.
C'est toujours commercialisé.
Je crois que c'est toujours commercialisé, ouais.
Kurokawa, t'as dit, hein.
Kurokawa, Resident Evil, Marawa Desire. Je me souviens quand il s'est sorti, c'est pour ça que j'étais allé dessus. J'avais entendu chez MangaCast, podcast manga très réputé, qui avait invité, c'était une émission avec Grégoire Hello, justement sur Kurokawa. Donc Grégoire Hello, c'est un vieux de la vieille, hein, qui est maintenant dans le manga.
Silver Mousquetaire, les amis.
Exactement, Silver Mousquetaire. Ça s'appelait comment déjà cette série?
C'est France 5.
France 5, voilà, ouais, exactement.
Ah, les France 5. France 5, énorme, bien sûr.
Et donc, ils avaient en fait fait une sorte d'événement chez Kurokawa quand ils l'ont sorti. C'est qu'ils l'ont sorti en même temps que le Japon.
Ah.
Donc ça a été une sortie
internationale.
Internationale. Ils ont traduit en direct pour pouvoir sortir les des deux côtés.
C'est génial.
En même temps. Voilà. Et enfin, le gros bloc dont je voulais vous parler, enfin le gros bloc, on va pas non plus disserter des heures dessus, parce que tout le monde connaît les licences. Il y a Soleil qui a créé un partenariat avec Nintendo pour sortir toutes les licences de manga adapter des jeux vidéo Nintendo.
Les mangas officiels, je précise.
Donc, j'ai noté Animal Crossing, Super Mario, Kirby, Splatoon, Zelda, Wario, Yoshi's Island, Castlevania. Ils ont sorti tout ça. Il y a du bon et du moins bon. Dans le bon, voire très bon sur certains, je trouve que la collection Zelda en Perfect, ouais. Il y a une collection en 5 tomes qui est très jolie. Presque comme les Junji Ito, là, chez ouais, Delcourt ouais. Tonkam, c'est des gros pavés cartonnés. Ils sont très sympas. Souvent, dans un gros volume, t'as deux jeux. Tu vas avoir Link to the Past et puis My Niche Cap, par exemple. Il y a plusieurs jeux qui sont adaptés.
Ce qui te permet de comprendre un petit peu mieux l'univers qui est un peu décousu. L'univers ouais. de Link, il est pas très très simple d'accès. Donc c'est vrai que le manga aide à percevoir certaines choses.
Et Link to the Past, il y en a plusieurs des adaptations. Il y a celle qui est dans cette collection Perfect. Et ils ont sorti aussi Link to the Past à part aussi chez Soleil, dans une intégrale qui a été dessinée par un autre dessinateur. Il y a plusieurs adaptations, parce que c'est un peu le plus connu, Link to the Past. Enfin, le plus connu. C'est un peu le mythique, c'est le mythologique, on va dire.
Bah, il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec celui-ci.
Bah oui, voilà.
Bah oui, c'est surtout ça.
Bah, moi, c'est le jeu, si je devais, quand on me demande c'est quoi le jeu de ta vie, c'est celui-là pour moi. C'est le jeu que j'ai le plus joué, que j'ai refait le plus, qui m'a le plus marqué de toute ma vie. Même si ça reste le celui de Super NES.
La Légende Zelda va vraiment, bon, effectivement avec la version NES, mais elle prend vraiment un grade avec Link to the Past.
Je suis un très gros fan de Zelda, c'est peut-être l'un des seuls jeux à chaque fois, quand il y en a un nouveau, que j'y joue. Il y en a eu des magnifiques, mais je reste subjugué par celui de Super NES. Je sais pas, il y a quelque chose dans ce jeu qui s'est rattaché à l'enfance aussi. Hein.
Ah mais complètement. Moi, c'est
merveilleux pour moi.
C'est Link's Awakening qui me fait ça. Donc je vois tout à fait ce que tu veux dire. Moi, le fait de pouvoir partir avec Zelda sur ma Game Boy et d'avoir un jeu en noir et blanc, parce que j'ai fait la version noir et blanc et la version DX, donc en couleur, le te dire que quand tu joues au jeu noir et blanc, t'as l'impression de voir déjà les couleurs, tu fais « Waouh, comment ils ont fait ?»
Ah non, mais c'est des jeux tellement fabuleux. Et dans donc cette collection, il me semble que, étonnamment, les jeux des anciennes licences, quand je dis anciennes licences, c'est des licences qui existent depuis longtemps et qui sont plus rattachées à notre génération, ne fonctionnent pas parce que les adaptations sont beaucoup trop enfantines.
Ou parfois trop japonaises dans l'humour aussi, parce que c'est aussi pas toujours accessible pour nous.
Très très japonais, très pipi caca, mais trop. Alors qu'à côté, et je vais prendre l'exemple comme toi, Joe, de mes enfants, ils ont une Switch, ils ont leur île sur Animal Crossing, et ma fille aime beaucoup le manga Animal Crossing, elle retrouve vraiment l'univers, et c'est très marrant, très sympa, je l'ai pas lu, mais elle m'a dit que c'était vraiment génial.
Oui, puis c'est totalement kawaii, je crois aussi.
Et celui qui fonctionne le plus, étonnamment, c'est Splatoon. Splatoon, c'est l'une des plus grosses ventes de Soleil.
Ça m'étonne
Splatoon,
pas du tout.
Splatoon, c'est un carton énorme.
Bah, déjà, c'est un carton chez Nintendo tout court. Déjà.
Et c'est une licence assez récente qui a pris sa place à côté des Wario, Zelda, etc. Déjà, c'est déjà cette envergure-là chez Nintendo, je pense, Splatoon.
Et que tu retrouves dans plein de crossovers. Bon, on retrouve les personnages dans Mario
oui.
Kart. Non, ils ont fait très fort hein, sur ce coup-là.
Et le manga, il est déjà au tome 17 ou 18. Et mes enfants, à chaque fois qu'il y en a un qui sort, je leur achète. Le jour même, ils l'ont lu tous les deux, ils se le passent. Et ça fonctionne à mort, apparemment. Tant les dessins sont pas extraordinaires. Moi, j'ai pas essayé de le lire parce que j'ai pas eu vraiment, comme Doge, j'ai pas eu envie ni le temps. Mais apparemment, c'est super cool. Ils adorent. Et ça fonctionne à fond. Donc, je pense que, en mettant la quête de Dai de côté, parce que c'est un classique, que les deux licences qui fonctionnent le plus en manga, c'est Pokémon et Splatoon. C'est les deux gros cartons manga, en tout cas en France. Hein. Après, il y a peut-être d'autres choses qui fonctionnent plus au Japon. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez de votre côté là-dessus, ou est-ce que vous avez lu des mangas adaptés de jeux vidéo.
Non, mais par contre, moi, je voudrais vous parler très rapidement d'un truc qui, pour moi, rattache vraiment les wagons, dans le sens où c'est La fin de la boucle, un manga d'Oshikiri, mais que vous connaissez probablement, qui est High School Girl.
Oui, génial. Ouais.
Celui-là, là, pour le coup, vraiment, si vous êtes fan de jeux vidéo, de jeux d'arcade et que vous aimez le manga, ça va être difficile de pas accrocher au concept. Il y a une animation aussi, hein, parce que la série, enfin, il y a une série
sur Netflix
qui est disponible. Moi, j'avoue que j'ai vraiment bien accroché au manga et il y a tellement de refs. Moi qui suis assez pointu sur certains jeux, il y a des clins d'œil. J'ai découvert des trucs que je ne savais pas sur les licences et tous les trucs qu'utilise le joueur, le personnage principal du manga. Je vais pas spoiler, mais c'est des trucs qui existent vraiment dans les jeux. Ce manga est génial. Donc tu sens que ça a vraiment été dessiné par quelqu'un qui est fan de d'arcade. C'est édité par Mana Books et vraiment je conseille.
Tu peux nous redonner le titre parce que bah du coup moi ça m'intéresse vachement.
High Score Girl.
Ok. Chez Mana Book.
Ouais. C'est une série qui est terminée. Il y a 10 volumes. Il est trouvable très très facilement. Et si tu veux tester avant, tu peux regarder sur Netflix parce que l'adaptation est assez fidèle au manga. Donc si jamais tu veux voir ce que ça donne avant.
Et c'est vrai que ça fait complètement le lien entre les deux thèmes. On est sur du manga qui parle de jeux vidéo.
Ah puis là tu vas retrouver du Konami dedans, tu vas retrouver du Capcom, tu vas retrouver du SNK. C'est vraiment si vous avez aimé l'arcade à cette époque-là, si vous avez eu la chance d'y jouer, vous allez retrouver des vieux réflexes. Vous allez retrouver le fait de jouer à la pièce. Enfin c'est vraiment c'est tout une époque. Et puis, si jamais vous n'êtes pas aussi vieux que nous et que vous avez envie de découvrir un petit peu l'ambiance de cette époque-là, ça vaut le coup de jeter un œil.
Alors, évidemment, on a fait un petit tour d'horizon. On pourrait faire plusieurs émissions, voire des émissions de je ne sais pas combien d'heures si on voulait vraiment aller en profondeur sur tous les liens qu'il y a entre manga et jeux vidéo. Donc, tenez quand même à vous proposer à nos éditeurs de PCF ce petit éclairage, puis le point de vue de TMDJC qui est venu nous apporter son point de vue, son expertise. Et franchement, c'est cool. Je te remercie, vraiment, on te remercie.
C'est moi qui vous remercie de l'invitation. J'ai passé un super moment.
C'est vrai que un manga, jeux vidéo, en général, nos auditeurs, y a aussi des gamers. Je veux dire, la frontière entre les gens qui lisent et les gens qui jouent, elle est très mince. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui à la fois lisent et jouent. C'est des univers effectivement très, très connectés. Et donc, c'est super cool que tu sois venu parler de ça avec nous. Je sais pas, peut-être qu'un jour, il y aura un épisode 2 parce qu'il y aura tellement de choses à dire.
Quand vous voulez.
Max, tu voulais dire ?
Je retiens un truc qui m'a vraiment marqué. Le jour où on a eu l'impression de jouer avec un anime, ça a été vraiment une sensation incroyable et c'est vrai que Street Fighter en a fait partie. J'attends peut-être encore le jour où j'aurai la sensation de lire un truc que je veux jouer.
un truc où tu te dis « Tiens, j'aimerais bien y jouer en jeu vidéo ».
Voilà.
Heureusement que t'es là, TMDJC, pour expliquer, parce que.
C'est beau.
Moi, ça m'est arrivé avec le jeu Berserk.
Mais dans l'autre sens, est-ce que t'as déjà lu un manga qui a jamais été adapté en jeu vidéo et tu t'es dit, mais j'ai envie de le jouer, cette scène-là, j'ai envie de la jouer.
Tu l'as dit tout à l'heure, moi j'aurais vraiment aimé une bonne adaptation de City Hunter. Je rêverais d'avoir une adaptation de Cat Size.
C'est clair. Oh là.
Il nous aurait fait un Cat Size. Style Metal Gear Solid.
Un jeu d'infiltration.
Par exemple, un truc où t'as des phases de plateforme et des phases d'infiltration, un truc de ouf quoi.
C'est énorme.
J'aurais bien vu un Guillaume Musso de Vagabond quand il se bat contre les 72 gars à la suite là.
Alors là, très
moi,
très bon.
Moi je pensais au manga Kingdom.
Un Kingdom stratégique
où ce serait un truc parfait.
Ah, Kingdom, ce serait un Musso parfait.
Ah ouais, carrément. Ou un Kenshin en deux phases. D'abord, t'as la phase beats et maul, et puis une fois que t'as poutré tout le monde, t'arrives et c'est la phase combat où le boss, en fait, ça se passe comme dans un jeu de combat. Il y a un truc à faire aussi.
C'est clair, on a trop de bonnes idées. Faudrait qu'on apprenne à programmer assez vite pour pouvoir sortir des jeux et devenir millionnaire.
C'est ça.
Voilà. Il y a plein d'idées. Berserk, Mario Kart. Moi, je voudrais bien Guts sur un kart. Ça pourrait être sympa. J'ai trouvé ce que j'aurais voulu. Avoir Guts dans Soul Calibur.
Ah, pas mal.
Il y est déjà d'une certaine manière. Évidemment que le personnage de Siegfried, il est inspiré de Guts.
C'est vrai qu'il est quand même très inspiré de Guts. Il y a des personnages qu'il ne faudrait pas mettre. Parce qu'effectivement, si tu prends Saitaman et que tu le mets dans un jeu, le problème, c'est que tu gagnes tout le temps. C'est chiant.
Direct. Mais il y a un jeu, One Punch Man. Alors, je ne sais pas comment ça se passe.
Ils ont fait un truc rigolo, c'est que c'est en deux étapes. D'abord, tu joues les autres personnages. Et puis après, tu es obligé d'appeler Saitaman. Et là, tu gagnes, quoi qu'il se passe.
C'est génial. C'est quoi? C'est un QTE? Tu appuies juste sur rond et ça y est, c'est fini.
J'ai une dernière idée qui va nous permettre d'en plus de faire le lien avec notre karaoké parce que exceptionnellement aujourd'hui on a un invité qui a voulu, on l'a pas forcé, il a dit moi je veux chanter un générique avec vous.
Ah bah oui.
Donc
mais oui.
J'ai une idée qui va faire le lien avec ce générique qu'on
va
chanter.
Tu vas pas être déçu.
Moi j'aimerais beaucoup. Alors on parle de jeux parfois what the fuck japonais. Pourquoi on n'aurait pas une simulation de voleur de sous-vêtements avec Aposai?
Carrément.
Tu l'as obtenu. T'as les trophées.
Un truc d'infiltration sur les balcons, tu vois. Hop.
Metal Gear Solid. La lingerie, quoi.
Et toujours un nœud sous son nez. Je sais pas pourquoi.
Parce que c'est les voleurs au Japon, c'est comme ça qu'ils font. Donc, c'est vraiment typiquement.
C'est
tu le verras partir. Quand on a gagné, il fera sweet.
C'est plus du tout 2023. Dans les années 80, on pouvait voler des sous-vêtements. Maintenant, on peut.
C'est l'instant Sardou. On peut plus rien faire et on peut même plus piquer les sous-vêtements des meufs. Merde, putain.
Alors que pas du tout, on pouvait pas du tout. Je vous rassure, on ne pouvait, pour les jeunes, on ne pouvait pas voler non plus les sous-vêtements dans les années 80.
C'était trop bien les années 80.
C'est sûr.
Donc vous avez compris, on va laisser TMDJC nous annoncer la grande nouvelle. Qu'est-ce qu'on va chanter?
On va chanter, nous avons choisi le premier, parce qu'il y en a eu plein, le premier générique, alors évidemment japonais, de Ranma.
Oui, mythique.
Un petit au revoir quand même.
Au revoir tout le monde.
Au revoir. Ok, au revoir.
Au revoir.
Bon les gars, on va chanter, on se quitte en fanfare.
Allez.
Y'a papa, y'a papa, y chante. Ashagu koiwa ikeni koi. Y'a papa, y'a papa, y chante. Muneta wadare wadare kai.
Wakemo wakaru zuni. Rama rama de iyakuneru. Kimi to ato kara. Rama rama de nanda kanda to. Kuka wanda no saiki matsu.
Naze no oto shizuka ni suki da yo to ienai no ari ao to watashi no jaja ma ni natchau.
Beru mo nazarasu ni soyo kaze no yoni mune no wanyumu tsumi tsui takimi na no koku. Mei waku yo dakedo konya dake ii wa ashita made ii wa. Ya papa ya papa enchante odoro kisu wa umi no kisu. Ya papa enchante tomi no aji wa kakushi aji.
PCF Manga, la petite émission, c'est terminé. Salut les auditeurs, à bientôt.
Salut. Salut à tout le monde.
Salut.